présentation. Première chose dans les travaux, je disais, je pense qu'il y a Eric Henry qui a écrit aussi des choses intéressantes sur l'ingénierie concurrente et puis sur le lien avec la HQE. Martin Symes, il a écrit un article avec moi en 2008. La référence est citée dans le papier un peu par erreur parce qu'il y a une version de ces deux références. C'est de miser de on en parle en détail, on en parle plus tard. Mais il a écrit Martin Sykes d'autres choses aussi. Ça peut être intéressant d'aller voir, notamment sur l'Angleterre et comparativement, ça peut être assez intéressant de regarder ça. J'en arrive directement. Alors, une petite interrogation, c'est vraiment une digression, excusez-moi, mais. Si on a un label reconnu Grenelle Environnement, comment on va faire avec le nouveau nom de nos politiques environnementales, à savoir la transition énergétique? Je ne sais pas, puisque dans le discours politique de l'État, le Grenelle s'est progressivement effacé. On a de nouveaux mots d'ordre qui sont en puissance avec le mot transition énergétique. Du coup, quand on a un label qui est en quelque sorte un englobage politique qui, avec une référence historique, comment ça peut évoluer dans le temps lorsque le mot d'ordre politique a changé? Après, je vais concentrer mes questions sur. Enfin, vous avez dit quelque chose très intéressant, c'est Effinergie serait plus adaptée. Effinergie est plus adaptée. Voilà. Alors, ça m'intéresse, c'est plus adapté à quoi? Est-ce que c'est aux acteurs? On a vu par exemple l'importance de la préfiguration de l'ART qui vient faire que les acteurs vont l'adopter plus facilement. Ça, Catherine qui nous a parlé ça ce matin. Pour faire l'hypothèse que Effinergie s'adresse davantage aux suiveurs qu'aux pionniers. Car la HQE s'adresse aux pionniers, un peu l'esprit militant. Effinergie s'adresse aux suiveurs parce qu'elle vient préfigurer intentionnellement la réglementation. Donc ceux qui seront obligés de suivre. Un autre aspect, c'est est-ce qu'un bon label, quelque chose de plus adapté, serait une indifférence finalement à l'organisation du travail? C'est-à-dire quelque chose qui puisse, et soit, être adopté, quelle que soit l'organisation du travail. Ou est-ce que ça nécessite une organisation du travail particulière? Adaptée au terrain. On a parlé de la variation climatique. Alors, en fait, la variation climatique, elle est dans l'ART depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années déjà, avec les zones, etc. Donc, ça ne me semble pas être une innovation d'Effinergie. Peut-être c'est une innovation dans la façon de découper le climat, peut-être les zones, je ne sais pas, mais je ne vais pas aller en détail, mais c'est déjà présent. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas présent dans la HQE, ce découpage territorial. Par contre, c'est compensé par des options dans la HQE. Puisqu'il y a 14 cibles, on les choisit. Est-ce qu'il faut aller aussi, est-ce qu'on voit dans la réflexion sur les labels, pas seulement Effinergie, les différences entre urbain et rural, suivant le type d'habitat, etc. On peut aller pousser très loin la question de l'adaptation à une hétérogénéité de terrain. L'autre aspect d'adaptation, c'est à l'économie du projet, notamment au coût de la certification et donc ou de la labellisation et du coup à la question est-ce qu'il y a une taille critique qui permet d'amortir le coût de la labellisation, taille critique du projet. Il y a des questions aussi sur le coût de transaction des acteurs. Si c'est compliqué d'adopter le label, ça nécessite des études supplémentaires, des ajustements supplémentaires. Si c'est particulièrement innovant, ça entraîne plus de coûts de transaction. Et puis bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est le niveau de surcoût de travaux induits. On dit toujours, là, je peux, ça coûte 10%, 15% de plus. Bon, mais finalement, le label, qui serait le plus adoptable facilement, c'est celui qui engendrerait pas beaucoup de surcoût. Autre critère de l'adaptation, c'est aux méthodes et aux outils existants. Et on voit bien, vous l'avez dit, que l'ART, que le Effinergie vient se caler sur la procédure de l'ART, sur le mode de calcul. Donc finalement, il y a un groupe d'acteurs qui est peut-être aussi important, mais qu'on ne voit pas, c'est très compliqué, moi-même j'ai jamais creusé ça, c'est la question des assureurs aussi, qui jouent un rôle économique très important. On a un peu deux concepts pour regarder adapté à quoi. Soit le concept de sentier de dépendance, où là, finalement, on le découvre par l'enquête qui surgit au détour de l'observation du chercheur. Ou bien, une autre hypothèse, et là je reprends Roger Refresh, les gens qui sont partis d'innovation, la question de la compatibilité. C'est-à-dire qu'on prend, on essaie de voir en quoi une innovation est compatible avec le milieu qui est censé l'adopter. Je comprends pas, donc soit adopté. Voilà. Là, c'est une attitude peut-être un peu plus proactive de recherche, d'analyse du terrain. Pour finir sur cette partie-là, une énigme dans la certification HQE, c'est qu'avant qu'il y ait les normes NF-HQE, il y a eu la certification habitant-environnement. Développé par CERCAL, donc directement par un deal entre l'association HQE et CERCAL, sans passer par la normalisation. Donc. Et puis, toutes les autres sont passées par la normalisation NF. Franchement, moi, on peut faire des hypothèses, mais je ne sais pas comment expliquer cette bifurcation dans cette introduction en fait, de la NF en tant que médiateur intermédiaire entre l'association HQE et les organismes certificateurs. Qui concerne le deuxième papier, c'est un domaine sur lequel je suis beaucoup moins familier, donc je me suis demandé si on ne pouvait pas, en partant de Culemborg, que vous avez exposé, parce que vous avez commencé à citer Culemborg dans l'écologie industrielle, je me suis demandé si on ne pourrait pas reprendre Culemborg et essayer de le placer dans l'écologie politique. Et de le passer élément par élément dans l'écologie politique. Je ne sais pas ce que ça peut donner, c'est plutôt une réponse sur un temps long. On parle du Danemark, ça me fait penser quand même au fondement des systèmes territoriaux d'innovation. Hein, c'est l'août années 70 quand il étudie les machines à faire les vaches. C'est un peu là qu'il met toute l'école sur les districts, enfin, la vision européenne, peut-être dans la littérature américaine c'est autre chose, mais dans la littérature européenne sur les districts, les systèmes d'innovation, les systèmes nationaux et territoriaux d'innovation. Et on retrouve des qualités dans la présentation de Culemborg, quelques-unes des qualités que Lout a observées dans les collaborations entre les agriculteurs, les éleveurs et les fabricants de machines à faire. Du coup, je me demande, je pose la question, si on regarde la genèse des idées sur les temps longs, c'est finalement aussi pourquoi, comment Culemborg est devenu modèle de l'écologie industrielle. Certes, il y a des performances techniques et économiques qui sont inhabituelles à cette échelle, d'un morceau de territoire très important. Certes, il y a une écologie industrielle, science naissante, qui est à la recherche d'exemples pour venir illustrer ces analyses, faire la preuve de la faisabilité de ces théories. Mais est-ce que ça suffit pour faire modèle à une échelle aussi large que celle que Culemborg est aujourd'hui?
Merci, on va ouvrir...